One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away. Now I am real.
Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2, c'est les bébés dinosaures.
Et nous sommes le dimanche. Laisse-moi calculer.
On sait plus
quelque part en avril. Voilà. Le 18 avril, je crois, que je jette un truc de ce style.
Il doit être 21h30 à peu près. Enfin, bon. Et donc, c'est votre émission de Rock 70s. Toujours et fidèle au poste.
Ouais. Fidèle.
Je sais pas si le poste en est satisfait. Mais...
Bah non, attends, t'es pas au poste parce que t'as pas été contrôlé.
Bah finalement, non, oui, non, non.
Ouais. Enfin, on a je sais pas si vous voyez quel poste, enfin bref.
Et donc, les bébés dinosaures, bon, bah, c'est beaucoup de bêtises et de bavardages, et puis de la musique aussi.
Ah oui, et puis des histoires. Alors écoute, aujourd'hui on a une petite actualité. Alors c'est une actualité qui date de 1969. Mais c'est par pigeon voyageur qu'on reçoit nos nouvelles, alors voilà, bon, c'est... en fait, c'est plutôt par biographie rétrospective de figures de l'époque. Et là, c'est quelqu'un qui fait partie des Hidden Figures, si on peut dire, pour emprunter le titre du film. Mary Clayton, qui, comme dans Hidden Figures, est une femme noire, mais elle n'était pas calculatrice, elle était choriste. Et il y a beaucoup de choristes noires qui ont chanté sur les disques des années 60 et 70. Et elles étaient rarement, comment dire, bien créditées, rarement mises en avant. Une exception, c'est peut-être les trois qui ont chanté à un moment sur une tournée de Hubble Pie, les Blackberries, qui étaient en portrait sur les couvertures des disques, certains disques, et mentionnés, tout, annoncés par Steve Marriott. Mais alors, il y a eu beaucoup comme ça de groupes de choristes. Et Mary Clayton avait commencé sa carrière en faisant choriste pour Bobby Darin. Alors, bien oublié. Elle était toute jeune. Hein. Une des conditions pour que sa mère la laisse bosser pour Bobby Darin, c'est qu'il devait corriger ses devoirs maison de l'école. Pour s'assurer que la fille travaillait.
C'était déjà l'école à la maison.
Ah ouais. Bah, l'école au studio, plutôt. Et apparemment, Bobby Darin le faisait. Il corrigeait les rédactions, je ne sais pas quoi, de Mary Clayton, qui était une gamine de 14-15 ans. Et puis, un peu plus tard, bon, elle a continué. Elle a fait partie des Raelettes, qui étaient les choristes de Ray Charles dans les années 60. Elle a fait partie. Et elle a épousé un producteur, un musicien qui jouait avec Ray Charles. Et en 69, elle vivait à Hollywood. Et elle reçoit un appel tard le soir de Jack Nitzsche, le célèbre musicien, producteur qui a joué avec Neil Young par exemple. Et Jack Nitzsche était en train de produire l'album des Rolling Stones, Gimme Shelter. Et il dit, on a besoin de choristes, les Rolling Stones veulent des choristes noirs pour venir chanter là tout de suite. Et donc elle se pointe au studio en pyjama et en bigoudi, enceinte de 4 mois. Et c'est elle qui va chanter le truc qui sort, si tu veux, sur Gimme Shelter. It's just a shot away. C'est elle, c'est sa voix, elle. Et en fait, il faisait froid, elle était crevée, et elle a cassé sa voix, elle chantait pas vraiment juste. Et ils ont réécouté ça, elle était horrifiée, et les Rolling Stones ont dit, c'est super, on le garde. Voilà, et alors, ensuite, elle est rentrée chez elle. Et alors, l'histoire est un peu tragique, parce qu'en fait, c'était quand même... elles ont dû bosser un certain temps, c'est probablement pas une seule prise, et elle a fait une fausse couche après. Elle a perdu le fœtus qu'elle portait. Donc elle a toujours gardé un plutôt mauvais souvenir de cet enregistrement, mais ça reste quelque chose de grand, et donc on va se réécouter un petit Gimme Shelter dans la version de l'album, pour, comme ça, pour le plaisir.
Thank you.
Buddy Shelter, le classique des Stones, avec effectivement la magnifique voix de
Mary Clayton. Alors, Mary écrit M-E-2-R-Y sur l'article du Guardian, donc je pense que c'est ça qui fait foi, sur les notes de pochette de la réédition un peu nulle que j'ai, hein, de Let It Bleed, l'album de Rolling Stones, sur lequel ça figure. il l'appelle Mary Clayton, M-A-R-Y, Marie quoi. Et il y a d'autres choristes, hein, sur ce... alors là elle est seule, hein, sur ce morceau-là, mais sur d'autres morceaux, il y a d'autres choristes, par exemple Madeleine Bell, Doris Troy, Nanette Newman, qui sont des noms qu'on trouve sur pas mal de disques quand on cherche un peu dans les petits caractères.
Voilà. Oui, bah, c'était pour leur réputation qu'elles se faisaient embaucher comme ça pour boucher des trous ou pour... lorsqu'il y avait un besoin urgent dans une session.
Ça devait être correctement payé.
Je pense que c'était payé au cachet, j'imagine.
Oui, bah sûrement.
Et puis voilà, tant la soirée, et puis en avant. Quoi.
Et en même temps, quand c'était des groupes vraiment en vue, ça devait avoir une petite excitation liée au prestige. On parlera de comment a été payé le joueur de clavier pour l'album Sabbath, Bloody Sabbath, plus tard.
Oh là, ça promet. Il était payé quoi, en seau de cocaïne? Bon. Eh bien, on va s'écouter une nouvelle version de Rock'n'Roll de Lou Reed. On s'en était écouté une, je crois, la semaine dernière. Non, je ne sais plus.
Oui, bien sûr, c'est d'Alice Cooper sur son dernier album, Detroit Stories.
Voilà, sur lequel on reviendra tout à l'heure.
Oui.
Et là, on va s'écouter la version des Runaways, le groupe de filles californiennes, sur leur album live au Japon, qui est resté... dans les annales, un album assez mémorable, dans une ambiance torride, et c'était les Runaways au sommet. Après, leur carrière s'est quand même très vite achevée, un peu dans le chaos. Mais là, ils étaient au sommet, c'était donc en 77, les Runaways au Japon, reprenant le rock'n'roll de Lou Reed.
It's all right.
Boys. Le live in Japan, donc en 77.
Alors, après les sales gamines, les sales gamins, The Brats. Mm. C'est un nom qui veut dire à peu près ça. Hein. Enfin, les Runaways, c'est fugueuses. The Brats, avec un morceau tiré de leur anto Criminal Guitar, donc publié bien après la disparition du groupe. Et ben, le morceau du titre, Criminal Guitar, on ne s'est pas passé. Il est assez original, il est un peu plus complexe que pas mal de morceaux de glam de l'époque. Et donc c'était le groupe de Rick Rivets, mais sur Criminal Guitar, rappelle-moi, il y est dessus ou pas?
Alors, sur Criminal Guitar, je crois qu'il y est.
D'accord.
Il est sur tous les morceaux.
Et c'est sur l'autre où,
sur l'album,
l'album
Candy,
posthume qui
voilà,
est pas.
Voilà, Candy, je ne sais plus quoi, Rock Candy.
Rock Candy, ouais.
Là, a priori, il n'y est pas. Mm. Puis il y a eu une autre compile sur les Brats où il est sur certains morceaux et pas sur d'autres.
Enfin, ouais, c'est ouais, compliqué, c'est assez compliqué, tout ça. Ouais. Ok, donc Criminal Guitar, probablement avec Rick Rivets, un membre de Actress qui était le pré-New York Dolls.
Voilà. C'est ça.
Teenage nightmare, rock and roll's against the law. And when they cut down Chuck in St. Louis, they push us into civil war. And ever since the trains stopped running, we've been living in a subway car.
morceau très curieux.
Criminal Guitar, avec un texte un peu génial pour expliquer qu'on essaie d'interdire le rock'n'roll. Là, il charrie un peu quand même, mais enfin, bon, c'est vrai que ça avait une sulfureuse réputation au début des années 70 encore.
Et puis ils avaient de quoi être frustrés, hein, puisqu'ils n'ont jamais été signés, alors que tous leurs copains new-yorkais l'étaient les uns après les autres.
Ah, alors ils expliquaient they can keep off the, je sais plus quoi, but they cannot keep us off the charts. Ils peuvent nous empêcher d'être reconnus, mais on peut nous empêcher de vendre des disques. Alors en fait, ils n'en ont pas vendu non plus. Non, ils n'ont pas été une parade. Les pauvres. Et c'était pas mal du tout pourtant.
Ouais. On en reparlera peut-être tout à l'heure des Brats. Et là, on va revenir sur mon groupe fétiche du moment. Tu sais, j'en change toutes les 3 semaines à peu près. Et là, depuis 15 jours, je suis plongé dans les Donnas.
Mm-hmm. Alors, replonges les Donnas.
Je replonge, effectivement. Mm-hmm. Les Donnas, c'est un groupe qu'on a connu à la fin des années 90. On a raconté déjà un petit peu la semaine dernière le fait qu'elles avaient démarré à 15-16 ans, qu'elles avaient déjà fait 2 groupes avant de faire les Donnas. Et que leur premier album est sorti en 97 avec une nette influence Ramones. Mais l'autre groupe fétiche, bien sûr, des Donnas, c'était les Runaways, évidemment. Et on les a toujours décrites comme ça, un mélange entre les Ramones et les Runaways. Ce qui fait un peu cliché, mais en même temps, c'est quand même très vrai, au moins sur les 3 albums qui ont suivi. Alors en tout, il y a 7 albums dans la discographie des Donnas. Les 4 premiers sont vraiment très bons. Le premier est très Ramones, les 3 suivants, mélange Ramones, Runaways, un peu plus hard. Et les 3 qui ont suivi ensuite sont beaucoup moins bons. Que s'est-il passé? Elles ont signé sur une major, bien sûr.
Ah, et ça, c'est toujours le début. Un nouveau producteur.
C'est toujours le début de la fin pour un groupe underground. Mmh. C'est toujours pareil. Donc, il y a 2 albums sur Atlantic. Et puis, le 3e, elles sont revenues à un label plus petit. Mais c'était déjà plus du tout la même chose. Le label les a relookés et a transformé leur rock quand même très, très, très ténueux et accrocheur, une espèce de truc beaucoup plus générique, un truc à l'MTV, tu vois, une espèce de art pop qui n'est pas horrible hein, en soi, mais qui n'est pas très intéressant non plus. Donc si vous vous penchez un jour sur les Donnas, c'est les 4 premiers albums qu'il faut, c'est déjà pas mal. Hein. Et on a déjà passé alors beaucoup de leurs reprises 70s, parce qu'elles en faisaient plein. Alors elles ont repris Queens of Noise de One Way, je pense qu'on l'a passé, je n'ai pas vérifié ça. On a passé Speeding Back to My Baby, reprise d'Ace Frehley. Elles étaient très fans de Kiss, elles ont même fait un split single avec Kiss en reprenant Strutter, et c'était un morceau qui figurait sur la bande-son de du film de Kiss, Detroit Rock City, je sais pas si tu vois, un truc sorti dans les années 90.
Ouais. Je vais peut-être même regarder ce film un jour.
C'est assez drôle, il y a des moments assez drôles. Ouais.
C'est sur des teenagers qui veulent aller voir le concert de Kiss, et c'est interdit par leurs parents. Fin...
Et il y a des tas d'embrouilles avant qu'ils arrivent finalement à voir le concert, c'est relativement drôle. Et donc il y a cette reprise de Strutter des Donnas dans la bande-son. Elles ont fait beaucoup de morceaux pour des bandes-son de films, à leur époque plutôt major. Hein. Et puis elles avaient beaucoup d'autres reprises 70s, parfois un peu plus obscures et plus difficiles à trouver. On a passé celle de Schools Out aussi, que j'avais en 45 tours. Tu vois, j'avais bien fait de me repencher dessus parce que j'ai totalement oublié. C'est une face B de 45 tours, Schools Out. Face B de 40 Boys in 40 Nights, si je me souviens bien. Et là j'en ai trouvé une par contre qu'elles n'ont jamais enregistrée. Donc elle est live. Et je vous laisse... la reconnaître, ce sera assez rapide, je pense. Alors, c'était les tout débuts des Donnas. Hein. C'est là, quand même, c'est sur cette période-là qu'il faut se plonger. Et c'était en concert, un concert organisé par leur label de l'époque, je pense. C'était Lookout, qui était le label du pop-punk. Enfin, vraiment un label très underground, mais très réputé sur la planète entière. Et c'était un concert qui a eu lieu en 98 au Titi and the Bears à Cambridge, dans le Massachusetts. Les Donnas, donc, en 98, reprenant, vous allez vite le reconnaître, je pense.
Bye.
Ah oui, oh là là là, la fin est un peu brutale et tout le monde a reconnu, bien sûr, Shot Down in Flames, d'AC/DC.
Ah, ouais.
Donc, ce qui veut dire que dès leur début, elles avaient quand même déjà un sérieux penchant pour le hard rock. Hein.
Et ouais.
Et tu verras, elles en ont repris d'autres. Hein. Alors, je peux le dire, sur leurs albums studio, sur Lookout, elles ont repris. Lookout, qui n'était pas du tout un label sur lequel on avait l'habitude de trouver du hard rock. Elles ont repris Motley Crue.
Ah carrément.
Merde, j'oublie le titre du morceau. Too Fast for Love. Très bon morceau. Et elles ont repris Judas Priest. Living After Midnight, un énorme morceau aussi, mais enfin surtout dans la version Donaz, à vrai dire.
Ouais, c'est que Judas Priest, c'est toujours eu du mal.
Oui, c'était le métal anglais, bon, très métal, et puis la voix de Rob Halford est un peu particulière, mais ce morceau est quand même très bon. Alors la version Donaz, c'est magnifique. Donc c'était le genre de choses qu'on pouvait éventuellement passer à Digit en cachette un peu. Tu sais, tiens, on va s'écouter les Donaz. Oh, ouais, pas mal ce morceau. C'était quoi? Une reprise de Judas Priest. Ah là là.
Et ouais.
On en reparlera peut-être tout à l'heure des.
Voilà. Après, il fallait se confesser. Alors, j'ai beaucoup pêché cette semaine et donc j'ai cherché à aller me confesser chez mon prêtre habituel, le révérend Fournier. Et il n'était pas là. Il y avait que son fils, Vincent, qui m'a dit, il faut réciter un « Je vous salue Marie ». Je lui ai dit « Oh, j'ai oublié », mais il m'a dit « Pas de problème, je te le fais ». Hail Mary.
Vincent Fournier.
Voilà, Alice Cooper.
Fils du révérend Fournier.
Eh oui.
Il fallait expliquer quand même, parce que là, c'était très inquiétant en introduction.
Eh oui, non, mais effectivement, hein, le vrai nom d'Alice Cooper, c'est Vincent Fournier, et son père était, était prêtre. Et mais protestants, donc il n'y a pas de confession chez eux. Mais tant pis. Hail Mary, par contre, c'est une prière bien catholique. Je vous salue Marie. Hail Mary, full of grace. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est ce qu'il chante. Mais ensuite, il fait rimer avec What you're doing in this place. Et il termine en la saluant d'une façon assez peu, comment dire, polie. Avec des sifflets et tout ça dans ce rock'n'roll rigolo d'Alice Cooper dans l'album Detroit Stories avec... La bande habituelle, c'est une chanson coécrite avec le guitariste Tommy Henriksen. Et Mark Farner joue la guitare là-dessus.
Le Grand Funk Railroad, monsieur.
Voilà. Et aussi, comment il s'appelle, Wayne Kramer, l'ancien de MC5. Et Tommy Henriksen, co-auteur de la chanson. Et aussi un gars qui s'appelle Gareth Bieleniec. Enfin, je ne sais pas comment il prononce, c'est un nom polonais, visiblement.
On reviendra tout à l'heure sur cet album des Scoopers par... le biais de sa reprise de Outrageous Theory, on s'écoutera l'original.
Mmh.
Mais bien. Là, j'ai encore un morceau en lien avec les Scoopers. Mmh. Et là, on revient aux Brats. Mmh. Les Brats new-yorkais ont traîné avec les Scoopers à une certaine époque, à l'époque où les Scoopers traînaient lui-même à New York. Et la légende dit que c'est les Scoopers qui leur a donné leur nom, qui les a traités de Brats, parce qu'ils faisaient les cons dans un bar, et que ce nom leur est resté. Ils ont dit « Ah ouais, ça nous va très bien, on va s'appeler comme ça ». Et pour lui rendre hommage, en quelque sorte, ils ont écrit un morceau qui est dédié à Alice Cooper, qui s'appelle « I'm So Cruel ». C'est sur la compil « Criminal Guitar » qu'on a écouté tout à l'heure. Là. Donc, époque Rick Rivets. Un son un peu cru, hein, c'est une répète, en fait. Il y a un petit peu de tout sur cette compil. Il y a leurs 2,45 tours sortis officiellement sur le propre label de Rick Rivets, donc le guitariste. Et puis, il y a des lives, et puis il y a des trucs enregistrés en répète. Là, c'est enregistré donc, en 73. Avec un son donc un peu cru et qui rappelle plutôt le Alice Cooper des débuts, en fait, des tout débuts, l'époque des Spiders, tu vois, plutôt que le Alice Cooper tel qu'il sonnait en 73. I'm So Cruel, donc, par les Brats, qui serait donc un morceau en hommage à Alice Cooper. Thank you. I'm So Cruel, donc le morceau des Bratz en hommage à Alice Cooper.
Ça avait un côté très garage 60s.
Oui. Ça peut rappeler les Spiders, le groupe 60s d'Alice Cooper.
Ça me rappelait un peu le groupe. Comment il s'appelait le groupe qui faisait Liar. J'ai oublié. Il y a beaucoup de groupes qui faisaient des trucs comme ça. Écoute, on va s'écouter Born to Run.
Un son très garage aussi.
Born to Run, mais pas le morceau de Bruce Springsteen. Un Born to Run différent. Le morceau de Neil Young qui s'appelle Born to Run. Alors, il est assez peu connu parce qu'il n'était jamais sorti en fait. C'était une des chansons qu'ils avaient enregistrées pendant les sessions de Zuma en 75. Le 3 juin 75, pour être précis. Et qu'il a remis sur l'édition transformée, rebidouillée, remise en l'ordre, le director's cut, si on veut, de Zuma, qu'il a appelé Doomé, ou Doomy, parce que c'était le nom de la maison où ils ont enregistré pas mal de choses, D-U-M-E, ça s'écrit, et qui est un des disques du coffret de 10 CD, Neil Young Archives Volume 2, qui est sorti récemment. C'est pas simple.
Ah oui, non, ça c'est sa discographie déjà pléthorique, mais voilà, il la complique sérieusement.
Ah ben, il faut dire qu'en fait, Neil Young, à cette époque-là, et peut-être même toujours, enregistrait un nombre de choses monstrueux. Alors, des concerts en pagaille, dans lesquels il joue parfois des chansons inédites, et qu'il enregistrait avec une qualité souvent assez satisfaisante. Des enregistrements studio en pagaille, et les albums qui étaient sortis officiellement à l'époque ne représentaient qu'une petite partie de ça, et souvent rebidouillés en refaisant un choix à droite à gauche ou en re-enregistrant des chansons qu'ils jouent en concert depuis 4 ou 5 ans. Enfin, c'est terrible. Il avait une productivité épouvantable. Il y a des trucs où c'est franchement dit, tu sais, American Stars and Bars qui est sorti en 77, il a marqué dessus, voilà, ce morceau est de telle époque, ce morceau de telle époque. D'autres où, en fait, il avait fait un album relativement homogène qui a été retardé par sa compagnie de disques. C'est le cas de Tonight's the Night. Mmh. D'autres où, enfin, bref, c'est... Alors, dans les archives, il essaie de remettre les trucs un peu par ordre chronologique d'enregistrement. Ouais. Mais il y a aussi son choix, lui, quoi. Et voilà. Donc, dans ce Doomé, par exemple, tu trouves une version précoce de Powderfinger, qui est sortie 3 ans plus tard, sur l'album Rust Never Sleeps, dans une version, saturée à fond, semi-punk et tout, magnifique. Là, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus tranquille, mais c'est quand même électrique, c'est avec Crazy Horse. Mm. On va s'écouter donc, revenons à Born to Run, qui est une chanson qui, elle, n'est jamais sortie. C'est avec Crazy Horse. Ça a été enregistré pendant les sessions, les mêmes jours que des trucs qui sont sortis sur l'album Zuma. Et c'est pas mal du tout. I'm
to Run, le Born to Run de Neil Young, bien sûr.
Voilà. Des chutes de studio de l'album Zuma. C'est une chute de studio qui présente bien quand même. Hein,
bah ouais.
Voilà.
Ah ouais, il y a un bon riff là, c'est accrocheur. Et ben voilà. Donc il y a quand même des petites merveilles sur ce.
Sur ces archives, oui, il y a pratiquement chacun des 10 albums, enfin non, peut-être pas sur chacun des 10, mais en tout cas, il y a un paquet de morceaux inédits. Il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de versions différentes, et puis il y a pratiquement l'intégralité des albums. Alors attends, l'intégralité, mais dans le désordre, des albums Zuma, Tonight's the Night et On the Beach, et puis des bouts. Des bouts seulement de Time Fades Away, Come the Time et American Stars and Bars. Ouais.
Faut prendre des notes. Hein.
Ouais, tout à fait. C'est pas évident.
Un petit Captain Beefheart, comme ça, pour le plaisir, comme j'avais prévu pour l'émission des 30 ans, qui restait dans un coin. Une version de Click Clack, un morceau qui, je crois, n'apparaît sur aucun album, qui est sorti en 45 tours en 71. Mais là, c'est une version live, enregistrée au Bataclan, en 1972. Donc, c'est un peu l'époque où la musique de Captain Beefheart redevient, comment dire...
Écoutable
Oui, je n'osais pas le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Redevient un peu plus accessible, voilà. C'est ça, hein. Parce que, bien sûr, il y a le premier album, Safe as Milk, là, 67, qui est totalement fantastique, avec des tube sur tube, une espèce de garage psychédélique incroyable. Et puis après, il y a toute une série d'albums, alors là, complètement tordus, complètement bizarroïdes. On a l'impression que tous les musiciens font absolument n'importe quoi, alors que tout était écrit note par note. Enfin, c'était une musique très compliquée et très étrange. Et puis, au début des années 70, il revient vers quelque chose d'un peu plus quand même accessible, voilà, écoutable absolument, avec plusieurs albums plutôt bons. Mais ce morceau-là, donc, sorti simplement en 45 tours, semble-t-il. Là, voici la version live, donc, au Bataclan, en 72. Oh, ben, ça reste bien allumé, quand même, hein. Captain Beefheart. We'll be right back. Ah voilà, oui, on était en transe en train de danser un pogo frénétique sur la table de Canal Sud. C'était Captain Biffard, donc clic clac, live au Bataclan en 72.
Eh bien, on va se passer un vrai single, là, un 45 tours pourri. J'espère qu'il est bien en 45 tours. C'est un groupe qui s'appelait La Seine. La Seine, comme la rivière à Paris, là, L-A-S-E-I-N-E. Et oui, il est sur le vinyle numéro 1.
Je regarde la pochette.
Tu peux vérifier qu'il est bien. Ouais, non, alors, c'est rien de remarquable, ni dans la musique, ni dans la pochette. D'accord. C'est un petit peu rock FM, c'est sorti en 76. C'était plus l'époque où on pouvait trouver des 45 tours de rock heavy un peu délirant. Ça s'était calmé, hélas. Mais c'est pas du disco, hein, c'est pas. C'est plutôt de ce que les débuts du rock FM, on va dire. Hein.
Ouh là là, c'est pas plus rassurant.
Non, oui, bien sûr. Écoute, c'est du rock générique, disons. Le morceau s'appelle Union Strong Arm Man, La Seine.
Tear down that bargain baker's bread.
Des frites pas trop cuites, sans vous embêter, monsieur. choisir un livre.
Alors, bah, une choucroute garnie.
Est-ce qu'il
y avait des
envies?
Un fond d'artichaut.
Un fond d'artichaut. Et après toutes ces petites entrées, on va bien voir un bon vieux coup.
Dépêchez-vous, messieurs, on va fermer.
Alors, un petit Beaujolais.
Un petit Beaujolais.
Un pouilly suissé, si vous avez.
Et demi bien frais.
Un demi bien frais.
Je vais faire un verre d'eau.
Je vais avoir un verre d'eau. Rien pour moi, merci. J'ai un mal au foie.
Alors, à la place de ma choucroute, je voudrais un melon jambon.
Un melon jambon.
Et un télé citron.
Un télé citron.
Qu'est-ce que t'as pris, toi?
Qu'est-ce que tu as pris, toi?
Alors, deux petits Beaujolais.
Un petit Beaujolais. Alors, deux petits Beaujolais.
Un pichet rosé.
Un pichet rosé. Et après avoir bu tout ça, on va commander les desserts.
Dépêchez-vous, messieurs, on va fermer.
Alors, une crème caramel.
Crème caramel.
Oui, une bonne tarte tatin.
Une bonne tarte tatin.
Des œufs à la neige.
Des œufs à la neige.
Vous avez des clopes?
Vous avez des cigarettes.
Une goldo pour moi.
Et vous, mademoiselle?
Une salade de fruits.
À la place de manger melon jambon, je vais être truite aux amandes.
Une fraîche chantilly. Une fraîche chantilly.
Waouh, c'est bon.
Une poire au sirop. Et après tous ces petits desserts, on prendra bien un vieux café.
Dépêchez-vous, messieurs, on va fermer maintenant.
Ça n'a pas été enregistré au Palais Vivienne, hein. Non, c'est, c'est le quotidien d'un bar-restaurant de 1975, par Vassilu, bien sûr.
Oui, avec un menu assez, comment dire, emblématique, standard, quoi, canonique.
Ben voilà, et c'est vrai que hein, ça nous fout un coup de nostalgie, là, hein. Putain, il nous tarde de pouvoir revenir dans les bars, là, et commander une truite aux amandes, ou je sais pas quoi,
ouais, melon. Une truite aux amandes, ou des œufs à neige, enfin des trucs ordinaires comme tout, mais...
Ah là là, ah oui, ça remue, hein.
Une profonde nostalgie, là.
Ah, voilà. Bon, on se repassera toutes les semaines, là, jusqu'à ce que ça rouvre, il y en a peut-être pour un petit moment.
Ouais, tu pourrais porter Savoy Truffle des Beatles aussi.
Oui.
Même principe. Bon, allez, on se remet un petit peu à Alice Cooper, l'album Detroit Stories qui est sorti cette année avec sa reprise de Our Love Will Change the World qui était sorti en avant-première, je crois.
Oui.
En single.
Tu l'avais déjà passé, oui, mais l'album n'était pas encore sorti.
Non. Ouais, voilà, donc maintenant c'est sur le CD, donc ça justifie de le repasser.
Absolument.
Voilà.
Et c'était surtout une énorme surprise de voir Alice Cooper reprendre Outrageous Cherry, groupe underground de Détroit.
Et alors là, c'est crédité comme écrit par Matthew Smith, Alice Cooper et Bob Ezrin. Ils ont dû changer quelques petits trucs dans les paroles.
Oui, ça c'est possible, ouais. Effectivement. Oui. Mm. Ouais, et puis Bob Ezrin, il ne peut pas de toute façon produire sans intervenir quelque part. Ils sont crédités sur les albums qu'ils produisent, voilà. Dans l'écriture des morceaux.
Et ouais, on va comparer donc.
Oui, voilà. Alors on passera à l'original après alors.
Voilà.
Très bien. Donc la version d'Alice Cooper sur son dernier album.
Detroit Stories.
Voilà. Attends que je retrouve, ça doit être par là.
Voilà. Our Love Will Change the World. Alors, c'est une version qui est apparemment donc coécrite. Donc, alors, on va voir qu'est-ce qui a changé par rapport à la version originale.
Voilà, on va s'écouter tout de suite. Donc, c'était sur l'album du même titre de Outrageous Cherry. Alors, j'ai pas la date, mais ça devait être
2004. En fait, voilà, je viens de trouver.
On a rencontré Matthew Smith à Détroit en 2005. Et c'était un grand fan de tout le rock psychédélique français. Mmh. Gong, Magma, ce genre de choses. Il adorait ça. Ouais. On a échangé pas mal d'anecdotes là-dessus.
Est-ce qu'il allait jusqu'à écouter Étron fou le loup blanc?
Alors je sais plus, c'est peut-être que je suppose
ça, il faut,
que, oui.
faut les avoir bien accrochés.
Je suis pas sûr si moi à l'époque je connaissais, tu vois, il savait sûrement plus que moi. Ah, c'est un mec étonnant qui est donc outre The Stereo, il jouait dans pas mal, il avait d'autres groupes et puis il intervenait sur plein de disques des groupes de Détroit de l'époque. Et puis rappelons que c'était la grande époque du rock, enfin la deuxième grande époque, on va dire, du rock underground à Détroit. Hein. Mm. Et il y avait les Dirt Bombs, il y avait les Electric Six et compagnie. Enfin, c'était vraiment une scène hyper vivante. Et parmi eux, Outrageous Cherry, c'était un peu le côté alors psychédélique et pop aussi. Donc, ils alternaient entre des morceaux courts, très, très pop, très accrocheurs, et des mélodies assez addictives, et puis des morceaux plus longs, psychés, barrés. Cet album-là, si je me souviens bien, est plutôt de côté pop, comme on peut s'en douter. Et il y a un son un peu particulier parce que leur batteuse avait un son très primitif. Là, ça rajoutait quelque chose, je trouve. On va s'écouter donc cette version originale de Our Love Will Change the World en 2004, je disais. Mm. Sur l'album du même nom, c'était le groupe Outrageous Cherry.
Ouais.
Ben la contribution d'Alice Cooper et de Bob Ezrin, c'est peut-être d'avoir supprimé la partie
voilà,
finale.
Voilà, d'avoir supprimé le final un peu Beatlesien. Ouais.
Parce qu'à part ça, c'est quand même une version
même
très fidèle.
Chose, ouais. Voilà. Bon, un petit Black Sabbath maintenant. Hein.
Ah bah,
on a promis hein, qu'on passe du Black Sabbath, là, on n'oublie pas. Et ce sera juste le morceau qui donne son titre à l'album Sabbath, Bloody Sabbath. Et alors c'est pas Sunday Bloody Sunday, hein, c'est Sabbath Bloody Sabbath, et ils l'ont fait bien avant YouTube. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est une petite histoire autour de ce morceau, c'est qu'ils avaient essayé, donc c'était en 73, de se mettre à faire le nouvel album après le volume 4. Et ils avaient essayé la même méthode, louer une villa à Los Angeles avec fourniture de, comment dire, fourniture de consommables généreuses, tout ça, bah, rien, parce qu'en fait, ils sortaient de l'album qu'ils avaient fait pour un peu jouer les morceaux de volume 4.
Et de la tournée, tu veux dire. De la tournée.
Ouais, ils sortaient de la tournée qui suivait l'album volume 4. Mm. Et en fait, cette tournée avait été interrompue parce que lors d'un concert au Hollywood Bowl, je crois, à Los Angeles, Tony Iommi s'était effondré à la fin du concert. Il était carrément tombé en sortant de scène parce qu'ils étaient épuisés. Et puis, ils avaient peut-être un peu trop consommé. Et donc, ils voulaient se remettre, tout ça, et puis rien, pas d'idée. Il séchait totalement. Tony Iommi, pendant un mois, trouvait aucun riff. Alors, ils étaient très inquiets. Puis, quand Tony Iommi trouvait pas un riff, les autres trouvaient rien non plus. Hein. Quoique Butler participait à l'écriture. Hein, mais enfin, lui, il devait être séché aussi. Alors, il faut pas trop compter sur Bill Ward et sur Ozzy Osbourne. Donc, ils sont rentrés en Angleterre. Et là, en Angleterre, ils ont loué un château où avait déjà enregistré Led Zeppelin, Deep Purple. Enfin, un vieux château médiéval. Bien inquiétant, avec des oubliettes, avec des... Alors, il s'était mis pour jouer la salle de répétition, c'était l'ancienne armurerie du château, là. Donc, ça foutait la trouille. Alors, un soir, ils ont vu un fantôme. Deux d'entre eux ont vu un fantôme. Il y avait une silhouette dans une grande capuche noire qu'ils ont suivi.
Ils continuent à consommer, quand même.
Ils ont suivi. Et puis, hop, en arrivant dans je ne sais plus quelle salle, il avait disparu. Oh! Et alors, ils ont demandé au concierge du château qui leur a dit « Oh, vous avez vu le fantôme, c'est normal !» Bon, bref, il y avait l'ambiance, déjà. Et là, Tony Iommi a trouvé le « ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- On est de retour. En même temps, ils ont passé leur temps à se faire des farces. Surtout, ils faisaient des farces à Bill Ward, qui marchait très bien, paraît-il. Bon, bref. Bref, requinqués par ça, ils se sont remis à picoler, ou ils ont peut-être jamais arrêté. Et ils ont trouvé tous les morceaux. Geezer Butler en a écrit un certain nombre. Deux, trois, enfin bref. Et ils sont allés enregistrer leur album au Morgan Studio, je crois, avec à côté, qui était qui enregistrait Tales from Topographic Oceans. Yes, bien sûr.
Oh là là là, le choc des cultures. Là.
Et ben, pas tant que ça, puisqu'ils ont embauché Rick Wakeman pour jouer du clavier sur Sabbath, Bloody Sabbath. Et alors, Rick Wakeman a dit, oh non, c'est pas, j'ai pas besoin d'être payé. Alors, ils l'ont payé en bière. Ouais, ça a dû leur coûter cher quand même.
Hein. En tonneau de bière.
Oui. Voilà, voilà. Quand on voit le format de Rick Wakeman, on se doute un peu que sur la bière, il devait y aller. Et donc, on va s'écouter ce morceau magnifique, Sabbath, Bloody Sabbath.
Oups.
Yeah!
Ah, Sabbath, Blake Sabbath. Alors, je crois pas que Rick Wakeman joue sur ce morceau. Hein. Il joue sur d'autres morceaux de l'album. Mais alors, quelle avalanche de guitare. Hein. Je crois qu'il y a jusqu'à 4 ou 5 à la fois.
Et puis, quelle braillante de Ozzy Osbourne. Un peu fausse d'ailleurs, mais c'est pas grave.
Life is killing you. C'est toute sa vie, ça.
Et un morceau de l'album, c'est Killing Yourself to Live. C'est,
ouais.
Eh bien, écoute, on se refait un petit Donaz.
Allez.
Une reprise encore, un de leurs nombreux morceaux qui sont apparus sur des bandes-son de films, en fait. Alors là, c'est sur la bande-son de Herbie Fully Loaded. J'ai pas la date, ça doit être 2000 et quelques. Sans doute un chef-d'œuvre du 7e art. Avec une reprise, la 70s. Alors il faut juste un petit rappel sur les Donaz. Elles ont donc changé de statut avec leur 5e album en étant signées sur une major, mais elles sont toujours restées ensemble. Hein. Ça a toujours été les 4 mêmes. Donc depuis 95 et leurs années de lycée, elles sont toujours restées ensemble, sauf à la toute fin du groupe. Le groupe a cessé, le dernier album date de 2009. 2010, elles faisaient encore une tournée, mais après, elles ont disparu. Et à la toute fin du groupe, la batteuse, qui était autodidacte, bien sûr, comme les 3 autres filles, hein, elles ont appris toutes seules dans le garage là, des parents, elle avait une tenue de baguette, semble-t-il, qui n'était pas très... qui convenait pas. C'était son style de jeu. En plus, elle était hyper dynamique, c'est une vraie furie sur sa batterie. Et elle a fini par avoir une tendinite chronique à l'épaule qui l'empêchait de jouer, elle ne pouvait plus jouer, quoi. Donc c'est uniquement lorsque la batteuse qui s'appelait, je sais plus, Castellano, Carrie Castellano, tout comme ça, quand elle n'a plus été capable de jouer, qu'ils l'ont remplacée par la batteuse des Demonix. Mais sinon, les 4 filles sont restées ensemble du début à la fin de leur carrière. Et quand tu vois plein de trucs sur YouTube, hein, surtout de la fin, enfin des années 2000, après qu'elles aient été signées par une major, où elles ont fait plein de clips, plein de trucs. Et tu vois que... c'est quand même un groupe qui attire encore les vues et les commentaires élogieux. Avec de temps en temps, certains qui disent « Oh là là, mais ça c'est leur époque MTV, regardez les vidéos des années 98, 99, 2000, c'était bien meilleur et tout. » Et ils n'ont pas tort. Mais quand même, cette reprise, tu vas voir, elle va sûrement te faire plaisir. Et bien sûr, je vais vous laisser deviner de quel morceau et de quel groupe il s'agit. Les Donaz, donc une reprise des années 2005-2006 par là, je pense.
Close all the doors, let's roll once more. Cop on the corner, boogie starting to write.
Rolling Down the Highway, fallait oser quand même reprendre Batman Turner Overdrive.
Ah ouais, mais tu vois quand même, dès le riff, on reconnaît ce morceau. Hein.
Ah ben oui, j'ai vu que t'as réagi au quart de tour.
Ils étaient beaucoup plus malins. Randy Bachman en particulier était bien meilleur musicien que ce que les gens en avaient l'impression, parce que les critiques disaient « Oh, ce rock de bûcheron, c'est des trucs de brut,
c'est
etc. »
C'est des trucs accrocheurs, enfin,
mais,
ça rentre dans la tête.
Mais accrocheur est souvent bien cherché, bien trouvé, tu vois, original en fait. Ils cherchaient des accords et des riffs. Était très bon guitariste en fait. Neil Young raconte dans son autobiographie que quand il était petit à Winnipeg, il y avait un mec qui était le dieu de la guitare dans la ville, c'était Randy Bachman, hein, déjà. Avant les Guess Who, tu vois.
Et après, on voit que les Donnas, période MTV, bon, elles avaient quand même encore. C'était quand même défendable, quoi. Hein. Évidemment, le son était très différent. Hein. C'était nettement plus produit. Et ça sentait le gros label à plein nez. Mais quand même, elles avaient toujours des reprises étonnantes. Il y en a d'autres encore plus surprenantes, quoi. On se passera peut-être un jour. Les Donnas, donc. Et maintenant, bah, c'est l'heure du jingle maudit.
Eh oui!
Ouais, qu'on veut, c'est du rock fort, celui du lait de nos produits. Du rock comme on en fait ici, car c'est le fruit de nos efforts. Égolo paysan, même combat dans nos vaisseaux. Notre fumier sert d'oxygène pour asphyxier tous les soldats.
Magnifique.
Ah, l'œuvre immortelle dit Frémion, Goldorak Larzem.
T'as vu, hein, j'ai tout passé, aucune interruption.
Ouais.
Je massage Didier.
C'est très bien. Ouais. Bon, écoute, la prochaine fois, tu te rattraperas. En tout cas, c'est notre rubrique fromage de chèvre avec ce soir Is. Alors, Is, Y-S.
Ah, Is, oui.
Is, d'accord. La ville d'Is. C'est déjà passé, la fameuse ville engloutie au large des côtes de la Bretagne. Oui, la légende de la ville d'Is. Et leur album unique, à ma connaissance, Madame la Frontière. Mais je me trompe peut-être, je n'ai pas cherché sur Discogs. Donc c'était un groupe bretonnoïde, en tout cas ils faisaient du dans le celtique avec pas mal d'Irlandais aussi, et je dirais que l'élément moteur du groupe devait être René Werner, chanteur, violoniste, joueur de tin whistle aussi, et de cromorne et de dulcimer. Il faisait tout.
Le quoi, de cromorne,
de cromorne.
Ah, ça je connais pas.
Je crois que c'est un instrument avant.
D'accord.
Mais je ne suis pas tout à fait sûr.
Cromorne, ouais, ça me fait peur déjà, rien que le nom.
Ah ouais, la cromorne.
Ça doit faire
la cromorne de plaine.
Des cromagnons aussi, un peu.
Trianne avait joué de la cromorne aussi. Et il y avait quand même à la batterie Michel Santangeli.
Ah là là, oui, magnifique.
Et oui. Auréolé de la gloire de Alan Stivell à l'Olympia, puisque c'est lui qui joue sur cet album.
Et voilà, et plus tard, Higelin.
Et il y a Higelin aussi sur l'album. On a passé d'ailleurs le morceau Caroline's Farewell, où Jacques Higelin joue de l'accordéon.
D'accord, oui, mais ça me disait quelque chose.
Alors sur un morceau, hein. Et sinon sur plusieurs morceaux, non, sur un morceau aussi, il y a Gabriel Yacoub, qui, donc le futur Malicorne, mais qui jouait aussi sur l'album... Live à l'Olympia d'Alan Stivell, tu vois. Et puis, il y a un claviériste qui s'appelle Pascal Steve. Il y a un bassiste qui est Jackie Thomas et un guitariste, Pierre Chérez. Alors, ils sont moins connus.
Ah, Pierre Chérez.
Pierre Chérez, ça dit quelque chose?
Ah oui, oui. Mais alors, Michelin peut-être aussi, je ne sais plus.
Voilà. Curieusement, d'ailleurs, il y a 5 musiciens qui sont crédités et 4 photos. Alors, tu sais pas... Alors, René Werner, tu le reconnais, mais les autres, je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, on va se passer un des extraits de cet album Madame la Frontière, qui est un très bon album de folk rock, et ça s'appelle O'Connell Street. ...
10, donc.
Voilà, avec Pierre Chérèze. Alors Pierre Chérèze, on l'a cherché un peu dans nos cerveaux seconds, et apparemment ça fait partie de ces noms qu'on trouve dans les petits caractères de tout un tas d'albums, parce qu'apparemment il a joué, alors avec, d'après Wikipédia, je vous fais une liste, comment dire, sélective, Louis Chédid, Diane Dufresne, Brigitte Fontaine, Pierre Groscolas, Nina Hagen, Jacques Higelin, Khaled, Bernard Lavilliers, Gérard Manset, Catherine Ribeiro et Renaud. Donc, c'est
déjà une belle brochette, et il y en a plein d'autres.
Et il y en a d'autres moins connus. c'est l'exemple typique de ce qu'on appelait un requin studio. Il a quand même aussi sorti 4 albums solo, dont 3 dans les années 80.
Voilà. Moi, j'ai connu son nom, je pense à Kijelin ou Renaud.
Eh bien, je crois que les bébés dinosaures sont en train de se terminer. On va peut-être faire les rappels d'usage. Donc, les bébés dinosaures est une émission de radio sur Canal Sud, 92.2 MHz, qui passe tous les dimanches soirs de 21h30 à 23h à peu près. C'est du rock des années 70, vous avez pu constater. Ouais, non, je ne sais pas constater. Écoutez, vous réécouterez. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas à Toulouse, vous ne pouvez pas nous choper sur les 92.2 MHz. C'est donc que vous vous branchez sur le fabuleux URL du fabuleux site de Canal Sud. De Canal Sud, et qui est le www.canalsud.net. Et si vous tapez Canal Sud, ça marche pas. Et c'est un site qui est très très bien, sur lequel on retrouve aussi les archives de l'émission, les archives sonores de l'émission. Vous avez plus de 400 MP3 que vous pouvez télécharger à votre volonté, c'est gratos. Que dire encore, qu'on est rediffusé les lundis de 15h30 à 17h sur les mêmes 92.2 MHz de Canal Sud, et que vous pouvez aussi écouter le reste de la semaine. La station, il y a plein d'émissions intéressantes de toutes sortes. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a une page Facebook si vous voulez retrouver les liens et ce genre de choses. Et c'est bon.
Et voilà,
je sèche.
Tu as tout dit. Eh bien, écoute, la semaine prochaine.
Eh bien oui, la semaine prochaine, comme tous les dimanches. Alors, à l'heure actuelle, vous le savez, nous sommes en rediffusion. Donc, nous ne savons pas très bien de quoi la semaine prochaine sera faite, parce que pour nous, quand on enregistre, c'est dans 2 semaines. Mais ça va, on se débrouille et il y aura toujours quelque chose.
Et puis, on fait croire qu'il est 11h, là, qu'il faut aller au lit, alors qu'en fait, non, c'est l'heure de l'apéro qui arrive. Là.
ouais, mais enfin, si on prend suffisamment d'apéro, c'est sieste tout de suite. Les bébés dinosaures, à la prochaine.
Come back. I want him to come back. Yeah, that's right. Come on.